Amis, bonsoir et bienvenue pour la conférence organisée par le groupe d'études théosophiques en Tarentaise. Et maintenant, pour présenter le sujet de la conférence, donc arguments pour ou contre la réincarnation, voici une petite lecture tirée du cahier théosophique numéro 157. En examinant la vie, son but évident et toutes les expériences qui s'offrent à l'homme, on est forcé de conclure qu'une seule existence ne peut suffire pour accomplir tout ce qui est visé dans les plans de la nature, sans parler de ce que l'homme lui-même peut désirer faire, car il existe en lui une vaste gamme de pouvoirs latents qui sont susceptibles de se développer si le temps et les opportunités lui sont donnés. Une connaissance d'une portée infinie s'offre à lui. Nous nourrissons des aspirations élevées sans avoir le temps nécessaire pour les réaliser, et pendant ce temps, les troupes innombrables des passions, des désirs, des motifs et des ambitions égoïstes luttent entre elles et contre nous et nous poursuivent jusqu'aux portes de la mort. Tout cela doit être subjugué et utilisé. Le seul fait de mourir ne saurait éliminer nos défauts, ni nous apporter la connaissance. Si nous supposons que la toute connaissance et la pureté nous seront données en entrant au ciel, nous rabaissons complètement cet état et ôtons à la vie toute signification. La réincarnation est l'accord perdu du christianisme qui manque à son harmonie, car c'est en elle et dans la doctrine jumelle de karma que se trouve la réponse à tous les problèmes de la vie. C'est dans ces deux enseignements essentiels que gît la force qui pourrait pousser les hommes à mettre réellement en pratique l'éthique qu'ils ne connaissent qu'en théorie. L'impulsion à la bonne conduite ne doit pas être basée sur un simple sentiment ou une foi, mais sur des lois qui opèrent universellement et ne peuvent être éludées. Karma et la réincarnation font clairement ressortir la responsabilité qui revient à chaque homme pour les conditions particulières dans lesquelles il se trouve. Ceci est en opposition directe avec l'irresponsabilité inculquée par les théologiens chrétiens. Ils enseignent en effet que nous sommes en essence des pécheurs et des êtres faibles, incapables de rien faire par nous-mêmes, mais que pourtant nos péchés nous seront pardonnés si nous croyons que le Christ est mort pour nous. Si une semblable chose se passait réellement, elle irait à l'encontre de la justice. Le fait que nous tentions aujourd'hui d'esquiver les effets de nos actions passées découle largement de ce que nous acceptons à la lettre certaines doctrines chrétiennes qui ont un sens absolument différent de celui que Jésus leur attachait. Voici maintenant la conférence.
Alors amis, donc arguments pour ou contre la réincarnation. Alors, en fait, en Occident, on est largement influencé, comme il a été dit dans la lecture, par la religion catholique qui nie l'idée de réincarnation parce qu'elle estime que à chaque naissance, une âme nouvelle est créée. Alors, pourtant, la réincarnation était enseignée par les apôtres. Par exemple, saint Paul, dans ses épîtres, va dire et va parler de Jacob et Ésaü en disant que le Seigneur aimait l'un et haïssait l'autre avant qu'ils ne fussent nés. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'un et l'autre avaient été bons et méchants respectivement avant leur naissance en tant que Jacob et Ésaü. Et puis Jean aussi, il fait donc allusion en disant que la voix du Tout-Puissant avait déclaré que celui qui vaincrait n'aurait plus à quitter le ciel. Ce qui veut dire que celui qui a travaillé sur lui-même pour se libérer de toute attraction du monde terrestre resterait dans les sphères célestes. Et ceci a été bien enseigné par les pères de l'Église, les premiers pères de l'Église, qui étaient pour la plupart des initiés. Et ils enseignaient, eux, que l'âme était tombée dans la matière et que par la loi de sa nature, elle était contrainte de remonter péniblement jusqu'au ciel, jusqu'à sa source. Donc c'est exactement la même idée, c'est-à-dire qu'on est là sur la terre pour précisément apprendre à développer certains pouvoirs mais en même temps se défaire de cette attraction terrestre pour pouvoir remonter en pleine conscience à notre source. Et c'est au Concile de Constantinople, au 5e siècle après Jésus-Christ, qu'elle fut rejetée totalement parce que la préexistence de l'âme n'était pas admise. Alors, il faut savoir que dès que la religion chrétienne s'est installée, eh bien, les centres initiatiques ont été fermés. Et à partir de là, eh bien, cette notion très complexe de l'âme n'était plus comprise par ceux qui étaient tenus d'enseigner l'enseignement de Jésus. En fait, il faut bien comprendre que si on pense que l'âme, l'être intérieur, c'est la personnalité, eh bien, à ce moment-là, effectivement, on peut rejeter la préexistence de l'âme. Parce que ce n'est pas la personnalité qui perdure de vie en vie. Il va simplement en rester le nectar qui va s'intégrer au tissu profond de l'être réel que nous sommes. Et l'être réel que nous sommes, eh bien, c'est l'individualité profonde, c'est le sens du « je suis moi-même », le sens d'identité qui va perdurer toute la vie. Alors qu'on passe par différents stades entre le bébé, l'enfant, l'adolescent, l'adulte que nous sommes, c'est toujours le même sens d'identité. Et ce sens d'identité, eh bien, il perdure d'incarnation en incarnation. C'est lui qui va finalement grandir, s'épanouir grâce à toute l'expérience des personnalités qui va être récoltée au fil des vies en vie. Et pour finalement, un jour, eh bien, remonter à sa source, en pleine conscience. Alors, amis, il faut dire que Jésus était juif, et qu'à cette époque, eh bien, les juifs croyaient à la réincarnation. Mais comme Jésus dit lui-même qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël, ça veut dire qu'il est venu pour réformer les idées erronées qui étaient transmises par les juifs. Et il se trouve qu'à un moment donné, ses apôtres lui demandent face à un homme qui était aveugle de naissance. Mais cet aveugle, il est aveugle parce qu'il a péché avant de naître ou parce que ses parents ont péché. Eh bien, si la réincarnation avait dû être niée par Jésus, il en aurait profité, il aurait saisi l'occasion pour le faire et il ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, souvent, dans son enseignement, on va retrouver des idées qui confirment la réincarnation. Par exemple, à un moment donné, quand Jean-Baptiste a été tué par Hérode, eh bien, il va dire à ses apôtres, « Mais ne l'avez-vous pas reconnu ? C'est Élie, le prophète, qui devait revenir. » Et il faut savoir qu'à cette époque, eh bien, il était enseigné couramment que les prophètes revenaient périodiquement redonner la bonne nouvelle. Mais si on comprend que le prophète, c'est un être qui a atteint un certain stade d'éveil, et que durant ce stade d'éveil, il a développé ce qu'on appelle un corps astral permanent, eh bien à ce moment-là, sa personnalité est fondue dans son individualité. Ce qui veut dire que cette réincarnation est une incarnation exceptionnelle ou différente de celle du commun des mortels qui, lui, s'incarne avec un nouveau corps astral à chaque fois qu'il reprend du service sur Terre. Donc c'est une exception encore, et il y a plusieurs exceptions, parce qu'on verra dans le cours de l'exposé, on parlera aussi d'une autre exception pour le fait qu'on s'incarne chaque fois avec un nouveau corps astral. Alors, ce qu'on peut dire encore par rapport au christianisme, il est évident que c'est précisément le désaccord entre l'enseignement de Jésus et ce qui est professé par l'Église, l'interprétation de cet enseignement, qui fait que l'éthique admirable de Jésus n'est pas respectée dans les nations chrétiennes. Pourquoi ? Parce que la croyance en une vie unique, eh bien, elle a engendré la lutte pour l'existence avec tout l'égoïsme qui peut s'en suivre et puis la souffrance. Donc on voit bien que c'est ça qui fait que l'éthique n'est pas vraiment manifestée dans les nations chrétiennes. Et parce qu'il faut bien comprendre que, en fait, on n'est pas né au hasard comme ça, mais comme il a été dit dans la lecture, en fait, on s'incarne par rapport à des causes qu'on a générées avant, dans les vies antérieures, dont les effets arrivent à maturité maintenant. Et ça, c'est compréhensible. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique toutes les différences de vie que l'on peut avoir. Parce que si une âme est créée à chaque naissance, pourquoi Dieu, qui est omniscient et plein d'amour, placerait telle âme dans une famille où il va s'épanouir et telle autre âme dans une famille où on sait très bien qu'il va être massacré? Donc il y a quelque chose de pas juste. Et avec l'idée de la réincarnation et de karma derrière, on comprend les choses qui paraissent justes à ce moment-là. Et puis ce qu'il faut bien comprendre aussi, et ce qu'on peut dire, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'avec cette idée de karma, eh bien, on est remis sur le métier pour travailler sur nos défauts et finalement, en cultivant les vertus opposées, petit à petit, eh bien, se créer ce corps astral permanent qui fera qu'on pourra revenir en pleine conscience dans les états qui sont transcendants au monde physique. Et donc, maintenant, nous allons un petit peu aborder les arguments qui sont contre le concept de réincarnation et voir ce que la théosophie a à dire. Alors, d'une façon générale, souvent, l'hérédité est mise en avant pour contredire l'idée de réincarnation. Parce que quand on pense à hérédité, eh bien, on pense à prédétermination d'un caractère, de certaines distinctions, enfin, par rapport pour un individu donné, mais on sait bien que dans une même famille, lorsqu'il y a beaucoup d'enfants, il n'y en a pas un qui développera le même caractère. Non seulement ça, même dans les cas de vrais jumeaux, eh bien, les deux n'auront pas le même caractère. Alors parfois, on trouve des tendances qui sont un peu communes, des façons de faire, de penser qui sont communes, mais ça appartient à la famille, c'est transmis par la famille, la façon d'être de la famille. Et ça va peut-être colorer la personnalité ou pas. Tout dépend de l'être qui est à l'intérieur, hein, qui est déjà là. Et donc, ce caractère profond va montrer qu'il y a en fait un inné qui est là, présent, dès la naissance, dans chaque individu. Et cet inné, en fait, eh bien, il corrobore l'idée de la réincarnation. On pourrait dire même que le fait de voir ce qui se passe, d'analyser les choses, eh bien, on pourrait dire que par rapport à l'hérédité, eh bien, l'hérédité, finalement, non, elle ne contredit pas la réincarnation, mais elle la confirme par rapport à ce qu'on peut voir. Alors, il faut bien comprendre, donc, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que l'écho ne va pas se réincarner par hasard, mais précisément dans la famille, dans le groupe humain, c'est-à-dire la famille, la nation, avec lequel il a engendré certaines causes communes par le passé. Et là, ça va être pour lui l'occasion d'évoluer, justement. D'évoluer en épanouissant toutes les belles qualités qu'il y a dans ce groupement humain, ou au contraire, en luttant contre les défauts, en rétablissant les choses, contre les défauts de la famille, du groupement humain, etc. Alors, ensuite, on voit aussi, par rapport à l'hérédité, que quelquefois, il y a des êtres qui vont naître avec des limitations au niveau cérébral, au niveau du physique, du corps physique. Mais ça, en fait, il faut bien comprendre que ce sont des opportunités. Là aussi, il n'y a pas de hasard. Ça va être des opportunités pour apprendre des leçons. Donc on comprend bien que parmi les milliards de possibilités d'un patrimoine génétique, l'ego qui va se réincarner, eh bien, il choisira exactement ce dont il a besoin pour avancer dans la vie. Hein? Alors, on pourrait aussi objecter l'idée, à propos de l'idée de réincarnation, que ce n'est pas juste finalement, c'est une autre personnalité dans la vie suivante. Et cette autre personnalité, elle n'a rien à voir avec la personnalité précédente qui a commis des erreurs, qui a généré des causes, que maintenant, l'autre personnalité doit en subir les effets. Eh bien, en fait, il faut bien comprendre que non, c'est nous-mêmes C'est nous-mêmes qui avons généré ces causes. L'être profond, hein, parce qu'on est un peu comme un acteur qui va endosser un rôle, un costume, c'est-à-dire une personnalité, mais c'est l'acteur qui subit les conséquences des actes, finalement, qui va souffrir ou se réjouir dans une vie de ce qui a été produit avant. Donc l'acteur, c'est toujours le même, c'est cette individualité profonde dont on a parlé au début. Alors, une des principales réfutations de la réincarnation, c'est l'absence de souvenirs. On ne se souvient pas de nos vies passées, sauf exception. Mais il faut bien comprendre aussi que dans la vie d'aujourd'hui, il y a très peu de choses qu'on va vraiment emmagasiner. Il y a beaucoup de choses qu'on a complètement oubliées. La plupart des choses, on les a totalement oubliées. Mais par contre, elles sont quand même inscrites quelque part dans notre nature, parce que on se souvient que par rapport aux témoignages de ceux qui ont fait une NDE, hein, eh bien, au moment où ils sortent de leur corps, ils rentrent dans la lumière et là, ils voient leur vie dans le moindre détail. Même toutes les pensées sont ressenties, toutes les pensées qu'il a eues sont ressenties, tous les actes sont revus, ressentis aussi, ressentis non seulement par rapport à soi-même, mais par rapport à ce que les autres ont peut-être subi. Par rapport à nos actes, nos paroles, etc. Tout est revu, donc tout est inscrit quelque part. En fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs registres de mémoire. Nous, on va donc enregistrer que quelques bribes d'événements importants qui nous ont marqués, et puis dans 10 ans, on va s'en souvenir assez vite au début, puis après, dans 10 ans, on va s'en souvenir, mais il y aura déjà des choses qui auront disparu. Ça, c'est une mémoire, c'est un type de mémoire. Et il y a un autre type de mémoire, c'est ce qu'on appelle la réminiscence, et qui fait que, en fait, toutes les expériences qu'on a vécues, même si on ne s'en souvient pas, on les a vraiment vécues, mais elles ont eu des effets sur notre caractère, parce que on a, par rapport à des événements vécus, on a réagi intérieurement. Donc, elles nous ont transformés, elles nous ont changés. Et donc, si vous voulez, c'est là, quelque part, cette mémoire, elle est là en nous. Et elle revient sous forme de réminiscence, comme on l'a dit, eh bien, par exemple, par la voie de la conscience. La voie de la conscience, tout d'un coup, j'ai envie de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait conforme à mon éthique, et hop, elle s'interpose. Pourquoi elle s'interpose? Eh bien, parce qu'en fait, il y a des leçons qui sont inscrites en lettres de feu dans notre nature, parce que ce sont des leçons qu'on a déjà apprises, et donc elles sont là. Elle est là, disponible, cette mémoire synthétique. Et elle se manifeste aussi parfois sous forme de rêve. Ça, c'est plus difficile à décrypter. Mais par contre, si par exemple, un être vit toujours des situations difficiles et les mêmes, et que vraiment il essaie de comprendre, mais pourquoi je vis ça, je ne comprends pas. Et à ce moment-là, eh bien, il va peut-être faire un rêve qui va être un moment d'une vie antérieure, un moment précis, où précisément il a engendré certaines causes dont il a à subir les effets maintenant. Et en voyant ça, il se rend compte, s'il connaît l'idée de la réincarnation, bien évidemment, il comprend pourquoi il vit cette situation. Le fait de comprendre, il accepte la situation. Et non seulement ça, eh bien, il en tire des leçons. Les défauts qu'il a vus là, qui se sont manifestés, il va travailler dessus. Et c'est comme ça que finalement, il va sortir du problème et qu'après, une fois qu'il a tiré la leçon, eh bien, c'est une autre situation qui s'offrira à lui, une autre opportunité, un autre karma. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, alors par rapport à cette mémoire, c'est que la théosophie nous dit qu'en vivant, selon les impératifs de notre nature supérieure, eh bien, on peut rendre sensible le cerveau à ces réminiscences, justement. Bon, ben, souvent, le commun des mortels, on n'est ni vraiment très bon, mais ni vraiment très méchant. Donc, c'est un petit peu le cas de tout le monde. Et dans ces cas-là, eh bien, le cerveau, qui, lui, n'a jamais participé aux vies précédentes, eh bien, lui, il aura tendance à ne pas se souvenir des vies précédentes. Et heureusement, quelque part, heureusement, parce que si on se souvenait de tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on a vécu, les traumatismes et tout, mais ce serait difficile à porter. Et heureusement qu'on n'a pas cette mémoire. Et il faut dire que quand même, des êtres qui arrivent à un certain degré d'avancement, eh bien, eux, ils ont la capacité d'entrer dans ces registres de mémoire. Mais pour nous, eh bien, il faudra attendre un certain cheminement sur le sentier, une certaine discipline qui nous rendra plus forts pour être capables de supporter la connaissance de ce qu'on a pu faire dans les vies antérieures. Alors, une autre objection à la réincarnation, c'est l'idée qu'il y a un accroissement constant de la population. Effectivement, on ne va pas le nier, hein. Mais on ne sait pas déjà, d'une part, si lorsqu'il y avait des civilisations à leur apogée, s'il n'y avait pas un nombre extrêmement dense de populations, parce qu'il n'y a aucun registre qui peut nous dire ça. Donc ça, on ne le savait pas. D'autre part, il faut savoir que, par exemple, il y a 100 ans en arrière, les gens mouraient autour des 40 ans. Aujourd'hui, on avoisine les 90 ans, donc ça fait du monde en plus sur Terre. Et puis, il y a autre chose que la théosophie nous dit, et précisément les maîtres de sagesse qui, eux, ont acquis l'immortalité de conscience et sont capables de rester soit conscients sur ces plans où nous ne subissons que les effets, comme le plan du rêve ou les états de conscience après la mort, eux, ils sont soit conscients sur les plans qui transcendent le plan physique, eh bien, eux, ils savent un peu ce qui se passe et ils nous disent qu'en fait, les états post-mortem eh bien, durent en moyenne entre 10 et 15 siècles. En moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. En plus, ils disent qu'il y a beaucoup plus d'ego dans ces états de conscience que d'ego incarné sur la Terre. Ça voudrait dire que si tout d'un coup les 10 ou 15 siècles passaient à 8 siècles, mettons, à ce moment-là, il pourrait y avoir un afflux d'êtres qui s'incarnent sur la Terre. Donc, il peut y avoir des variations comme ça, étonnantes de population. Et il pourrait même y avoir beaucoup plus d'êtres sur la Terre qu'il y en a actuellement. Alors, maintenant, nous allons aborder les éléments de preuve qui confirmeraient l'idée de la réincarnation. Alors, il faut savoir que dans les années 70, donc au siècle dernier, un psychiatre américain nommé Ian Stevenson a passé sa vie à étudier les cas de réincarnation. En fait, il a recensé des milliers de cas dans le monde et il en a étudié méticuleusement, de façon tout à fait scientifique, des centaines de cas et il a écrit des livres sur les cas les plus probants. Alors, tout au long de cet exposé, nous allons nous servir de certains de ces cas pour parler de certaines anomalies qui ne s'expliquent que si on postule l'idée de réincarnation. Alors, il y a des enfants qui, très tôt, vont exprimer des aptitudes tout à fait étonnantes, des talents, des génies, et qui ne s'expliquent ni par l'hérédité, ni par le milieu. Comme par exemple, cet enfant noir qui s'appelle Tom Blind, qui était le fils d'une esclave, qui était inculte, complètement aveugle, et qui, une nuit, alors que le patron de sa mère avait un piano, une nuit, il va dans la maison et il s'installe au piano et il se met à jouer tellement bien du piano que le maître de la maison se réveille et va voir qui joue si bien du piano, et là, il découvre le petit. Et en fait, après, donc, il va s'en occuper de façon à ce qu'il continue cet art. Et d'ailleurs, les maîtres de musique qui sont venus pour essayer de l'instruire se sont rendus compte qu'il n'avait rien à lui apprendre. Et cet être, eh bien, au cours de sa vie, il était capable de jouer de mémoire à peu près 5000 compositions. Donc, c'est quand même étonnant. On peut aussi parler de Mozart. Ses parents avaient un clavecin. Et donc, à 4 ans, il compose son premier menuet, à 5 ans, un concerto, et à 6 ans, il se produit dans l'Europe entière avec le talent qu'on lui connaît. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Alors, il y a aussi des enfants qui, dès la naissance, vont manifester des phobies inexpliquées. Comme par exemple, cet enfant, un bébé au Sri Lanka, qui avait une peur épouvantable de l'eau. Il hurlait férocement chaque fois qu'on voulait le baigner. Et quand il est un petit peu plus grand, dès qu'il est en âge de parler, il va parler d'une petite fille qui s'est noyée à l'âge de 9 ans, alors qu'elle était sur une route et qu'il y avait des rizières à côté. Un bus l'a renversée et elle est tombée dans la rizière et elle s'est noyée. Donc c'est assez étonnant. Ensuite, vous avez des cas d'enfants qui, très jeunes, vont exprimer des répulsions ou des attractions pour des choses ou des personnes, alors que rien ne l'explique. Ça aussi, c'est assez étonnant. Et donc, le professeur Stevenson déclare par ailleurs que les jeunes enfants qui manifestent des souvenirs de leur incarnation précédente ont un langage très élaboré, qui leur permet d'ailleurs de raconter tout en détail. Et les parents sont des fois assez effrayés d'entendre des enfants parler aussi bien, alors qu'ils sont tout petits, vraiment tout petits. Et là, par exemple, il parle d'un cas d'un enfant qui, au Liban, qui a 4 ans, et qui va, avant que même que les familles se rencontrent, eh bien, cet enfant va donner donc son nom de, quand il était incarné ailleurs, il va donner à peu près environ 70 détails qui vont être minutieusement écrits. Et quand tous ensemble, ils vont rencontrer la famille et voir l'ancienne maison de l'enfant, eh bien, en fait, les 70 détails se révèlent exacts. Donc là aussi, c'est étonnant, c'est complètement étonnant. Alors, en Angleterre, il a eu connaissance, par exemple, de jumelles qui évoquaient régulièrement deux sœurs qui étaient, dont il y en a une qui avait 11 ans, et l'autre 6 ans, et qui ont été fauchées par une voiture. Et ces deux jumelles, quand elles sont nées, eh bien, en fait, elles sont nées avec des marques physiques qui correspondaient aux endroits où les enfants, les deux petites filles, avaient été blessées. Et elles avaient un comportement qui était identique respectivement aux deux sœurs, décédées bien avant leur naissance. Et quand elles ont été en âge d'aller à l'école, eh bien en fait, elles connaissaient déjà par cœur l'école. Et elles savaient où il y avait la balançoire, elles savaient plein de détails, comme ça. Donc les parents, c'est sûr qu'il y a de quoi être surpris. Alors, il y a aussi des cas très intéressants, ce sont des cas d'enfants qui parlent une langue qui n'est pas celle de leurs parents. Et là, on a le cas d'un petit Robin qui a 5 ans et qui parle très bien, couramment, mais de temps en temps, il se met à parler un charabia incompréhensible. Et toujours le même genre de son, de mots. Et un jour, il y a une amie de la mère de l'enfant qui est là et qui l'entend parler et puis qui dit qu'il a l'impression que ces sons pourraient correspondre à une langue asiatique. Et comme elle connaît un professeur qui enseigne plusieurs langues asiatiques, elle demande à la mère si elle peut amener le professeur voir l'enfant. Et c'est ce qu'elle va faire. Et là, le professeur va reconnaître un dialecte utilisé au nord du Tibet. Alors il demande à l'enfant, mais est-ce que tu es allé au Tibet? Est-ce que vous êtes allé au Tibet? À la maman. Mais non, on n'est jamais allé au Tibet. Alors il demande à l'enfant, mais où as-tu appris ces mots? Alors l'enfant va lui dire, mais c'est à l'école. Alors la mère lui dit, mais voyons, Robin, tu n'es pas encore allé à l'école. Alors Robin, il lui dit, mais ah, c'était avant. Avant, c'était dans les montagnes, mais des montagnes qui n'étaient pas comme celles où on va en vacances. Et alors le professeur lui demande de décrire l'école. Alors il décrit une vieille bâtisse, l'intérieur, il fait tout un tas de descriptions avec des dessins. Et le professeur est tellement étonné qu'il décide, pour ses vacances prochaines, d'aller visiter le nord du Tibet pour essayer de retrouver cette école. Et là, eh bien, il va trouver la bâtisse. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que l'enfant va même dire que les gens qui lui ont appris ces mots, en fait, c'était des hommes, mais qui portaient des grandes robes avec une grosse ficelle autour de la taille. Et en fait, donc, le professeur va retrouver la bâtisse, il va effectivement, les montagnes, ce sont des montagnes extrêmement arides qui n'ont rien à voir avec l'endroit où ils allaient en vacances. Et en fait, à l'intérieur de la bâtisse, ce sont des lamas qui enseignent les enfants et qui portent effectivement leur habit traditionnel avec une corde autour de la taille. Alors ça aussi, c'est assez étonnant comme cas. Alors, amis, comme élément de preuve, eh bien, nous n'allons pas retenir les recherches de vie antérieure provoquées par un tiers, par exemple sous forme d'hypnose, l'hypnose ou de relaxation intense, le lying, enfin toutes sortes de techniques, parce que dans ces cas-là, eh bien, il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas la résurgence d'une vie antérieure, mais plutôt de la clairvoyance, par exemple. Quelqu'un, le sujet va entrer dans la lumière astrale et il va prendre une vie de la lumière astrale, mais ça peut être la vie d'un décédé qui n'a pas été lui antérieurement, mais ça peut être aussi même la vie d'un être vivant actuellement. Ça peut être aussi l'exhumation de souvenirs complètement oubliés. Par exemple, quand on lit un livre, on n'imagine pas, mais la psyché, elle travaille. Il y a des images qui se créent. Eh bien, peut-être que c'est lui arrivé aussi, que ce soit à la suite de la lecture de livre, qu'il y a plein de choses. Parce que le sujet, quand il lit un livre, souvent il s'identifie au héros, s'il y a un héros. En tout cas, il s'identifie au personnage. Et donc, il peut y avoir aussi ce genre de choses. C'est lui arrivé aussi. Il y a des cas comme ça. Et puis, ça peut être aussi un film qu'on a vu, puis qu'on a complètement oublié. Et puis voilà, les images reviennent et on pense que c'est peut-être des images d'une vie antérieure. Donc ça, on ne va pas s'en occuper. Et d'ailleurs, le professeur Stevenson, lui, il n'a uniquement conservé que les cas d'enfants qui disaient les choses d'une façon spontanée, sans qu'on leur demande, qui expliquaient aux parents, sans qu'on demande rien du tout. Et donc, c'était beaucoup plus sage qu'il fasse ainsi. Et d'ailleurs, pour la plupart des cas qu'il a retenus et étudiés scientifiquement, eh bien, la réincarnation semble l'explication la plus plausible. Et le professeur va dire ceci, je vais vous lire ce petit passage. Tous les cas que nous avons recensés, 14 000 environ, donc c'est énorme, hein, suggèrent le phénomène de réincarnation. En revanche, j'apporte la preuve que, chez certains enfants, des éléments de leur structure psychologique n'ont pu être acquis dans leur vie et ne sont pas dus à une transmission héréditaire. Lorsque cette structure psychologique et les éléments historiques correspondent en de nombreux points à une personne décédée, cela équivaut à une preuve de survivance de l'âme humaine après la mort physique. Pour ma part, je préfère rester prudent et dire que la réincarnation est la meilleure interprétation pour les cas les plus forts, mais en aucun cas n'est parfait et probant à 100%. Et il a raison, il n'y a aucune preuve à 100%, on n'aura jamais aucune preuve à 100%. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des explications de rechange. Par exemple, dans tous les cas qu'on a cités, eh bien, on pourrait dire que l'explication de rechange, ce serait par exemple un enfant qui commence à grandir, eh bien, son âme soit parasitée par exemple par la coque astrale d'un décédé, et cette coque, elle contient toute la mémoire de ce décédé. Ou alors, ça peut être un phénomène de clairvoyance, où le sujet s'identifie à la vie de la personne qui voit dans la lumière astrale. Alors, on ne veut pas dire que les cas qu'on a cités ne sont pas des cas de réincarnation, et ce sont probablement des cas authentiques de réincarnation. La théosophie nous dit que, surtout quand il s'agit d'un enfant qui est mort avant l'âge de 7 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu encore le sens de la responsabilité, ce qui fait qu'il n'aura rien à assimiler entre deux vies, eh bien, cet enfant va s'incarner quasiment immédiatement, avec le même corps astral. Ça veut dire qu'il y a la mémoire qui est là. Et la mémoire, elle sera probablement bien présente jusqu'au moment où petit à petit, le vécu de ce petit être va se surimposer sur cette mémoire et l'inhiber quelque part. Alors, donc ça, c'était une des exceptions du fait qu'on dit que généralement on se réincarne avec le même corps astral. Et tout à l'heure, on a parlé des prophètes. En parlant des prophètes, on a dit que peut-être ce sont des êtres qui ont acquis un corps astral permanent, hein, parce que c'est ce qu'on va, on est en train de se construire. Et en fait, les êtres qui ont, se sont construits ce corps astral permanent qui leur permet de passer de différents plans en gardant leur soi-conscience, en étant éveillé, eh bien, c'est le cas des maîtres de sagesse, par exemple, ou des hauts adeptes. Mais ça peut être aussi le cas, par exemple, de ces hauts lamas, hein, qui, avant de mourir, par exemple, vont dire à leur entourage, eh bien, je me réincarnerai à tel endroit. Ça arrive. Et s'il ne le dit pas, eh bien, 2 ans après, peut-être, c'est une personne de leur entourage qui va rêver que le lama s'est réincarné à tel endroit. Et toute la délégation va aller voir dans cet endroit. Et qu'est-ce qu'on va trouver ? Ben, on va trouver un petit bout de chou, un petit enfant, qui va reconnaître les personnes, qui va reconnaître les objets qui ont appartenu à l'ancien lama. Mais, et là, il va y avoir des pièges qui sont tendus. Mais l'enfant va déjouer les pièges. Et donc, là aussi, on dit, ben voilà, c'est la réincarnation de tel lama, etc. Alors, ce qu'on peut dire, là aussi, il y a de grandes chances que ce soit effectivement la réincarnation du lama. Mais on peut dire qu'il y a aussi des éléments de rechange. Hein. Par exemple, on peut imaginer qu'un être qui est très avancé sur le chemin de l'évolution, eh bien, une fois qu'il est mort, et même sans être mort, il peut adombrer, entre guillemets, par sa lumière, un autre être, un peu comme un maître et un disciple le font. Et à ce moment-là, le petit être peut très bien croire qu'il est ce lama. Mais bon, nous n'allons pas aller jusque-là. Enfin, on préfère dire qu'il y a quand même des explications de rechange. Alors maintenant, alors donc pour clore un petit peu le sujet, on va dire que, parce que comme il n'y a pas de preuve à 100%, alors on va dire bon, on sort de là, on n'est pas la réincarnation, c'est quoi finalement, on n'a rien prouvé. Non, parce que pour celui qui vraiment étudie les choses, essaye de comprendre la vie, eh bien la réincarnation, elle s'explique avec la loi de l'évolution, s'il y a évolution. Et même les scientifiques disent qu'elle existe, cette loi d'évolution. Parce que s'il n'y a pas d'évolution dans ce monde, si on n'est pas voué à évoluer, que tous les règnes de la nature et l'homme aussi, à ce moment-là, eh bien, cet univers est une grande farce. Et ce n'est pas possible. Parce que quand on voit toutes les intelligences qu'il y a derrière les phénomènes de la nature, ce n'est pas possible d'imaginer une chose pareille. Donc, pour nous, la réincarnation, ça peut devenir quelque chose de logique, et on peut être absolument sûr qu'on est des êtres qui avons déjà vécu et qu'on va se réincarner plus tard. Et si nous avons déjà vécu, eh bien, il y a forcément quelque chose en nous qui le sait. Donc, c'est très important d'essayer d'étudier la chose d'une façon très sérieuse, en éliminant toutes les superstitions qu'on peut mettre sur la réincarnation, comme par exemple l'idée que si on agit mal, on va se réincarner dans un animal. Eh bien non, parce que la monade humaine, elle ne peut pas régresser en monade animale, pas plus que la monade végétale ne peut régresser en monade minérale. Il y a des degrés d'éveil, et une fois atteint un éveil, on ne peut pas régresser à un stade inférieur. Par contre, si on agit mal, eh bien on sera face à nos erreurs, soit dans cette vie, soit dans la vie suivante. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, si on est aussi attentif aux lois de la nature, qu'est-ce qu'on voit dans la nature ? On voit le jour, la nuit. Le jour, ça correspond à quoi ? À une période d'éveil. On est éveillé, on agit, on fait des choses. La nuit, on dort. Mais la période d'éveil, ça peut être toute une vie. Et puis la nuit, ça peut être bien sûr la nuit, mais aussi toute la période entre deux vies. Et la période entre deux vies, comme la nuit, eh bien, elle sert à quoi ? Elle sert à l'assimilation de toute la vie qui s'est écoulée. Donc voilà. Alors ensuite, ce que l'on peut dire pour terminer, c'est qu'en fait, la réincarnation va nous offrir vraiment la possibilité de développer toutes les promesses en germe dans notre nature profonde et de réaliser toutes nos aspirations, de devenir un éveillé au service du grand projet de la vie qui est finalement l'épanouissement de toutes les consciences à leur dimension spirituelle. Alors voilà, Annie.